Hébreux 7, versets 23 à 28. Voilà. Et plus tard, il y aura Hébreux 10, 11 à 25, mais on n'y est pas encore. Alors, Hébreux 7. De plus, il y eut des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Maintenant, Hébreux 10, 11 à 25. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, car c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.
Bonjour et bienvenue, j'espère que vous avez pris vos cafés. C'est l'heure de la sieste. On va distribuer les Red Bull après 20 minutes de la prédication. Je suis désolé, c'est pas vrai. Si seulement je pouvais être utile. Si seulement ma vie avait une vraie valeur. Si seulement je servais à quelque chose. L'interrogation est très humaine. On veut savoir que l'on vaut quelque chose, que ma vie a une importance. On y est presque.
Ouais, ça
va chauffer. Je vous cite le grand philosophe Rocky, Sylvester Stallone. Il va apparaître dans quelques instants. Il dit, en se préparant pour le grand combat, « Si je tiens pendant tout le combat, et quand la cloche sonne, si je suis toujours debout, alors là, je saurai, pour la première fois dans ma vie, que je ne suis pas un simple nul, encore un autre vaurien de la cité. » Then I'll know I'm not just another bum from the neighborhood. Il parle du cœur, hein, Rocky. Si seulement je tiens les 12 rounds avec cet énorme Apollo Creed, là, le gars gigantesque, à ce moment-là, je saurais que je vaux quelque chose, vraiment. L'être humain est créé à l'image de Dieu. Cette image est brisée par le péché. Et donc, quelque part, on ressent cette fracture. On le ressent dans cette recherche et ce désir de valeur. À cause du péché, peut-être que vous avez vécu dans une famille où les choses vont mal, où le péché fait des ravages. On peut peut-être se dire, si seulement j'avais une vie de famille, et peut-être qu'il faut que je crée cette famille où c'est là où j'aurai vraiment cette valeur que je recherche, ou dans des amitiés. Attention, ne cherchez pas à faire porter sur des amitiés ou par le mariage un poids qui est trop lourd pour ces choses. Où peut-on trouver de la valeur? On a vu jusqu'ici, alors je crois que la diapo précédente, en fait, c'est celle que je veux maintenant. Non, suivante. Non, avant, remonte. Redescends. Encore. Ouais. Voilà. On a vu, donc, hier matin, que Jésus est l'homme véritable. Si on veut savoir ce que c'est que l'homme, pour regarder à Christ, ce qu'il est, ce que nous sommes censés être, en quelque chose, censés être, on a vu que nous vivons devant Dieu et que, dans un sens, on n'a pas d'existence devant Dieu sans Christ. Christ nous permet d'exister devant Dieu, car il est ce médiateur parfait qui rend possible une relation entre le Créateur Saint et la créature qui est pécheur, qui a désobéi à Dieu, qui s'est écarté de Dieu. La vraie humanité se trouve en Christ devant Dieu. Cet après-midi, nous allons voir qu'ensemble, si on saisit ce que Jésus est et ce qu'il a fait, que nos vies humaines peuvent avoir un sens et une valeur, malgré la petitesse très réelle de nos vies. Cette valeur, nous le recevons en Jésus-Christ. Nous pouvons le recevoir en s'attachant à lui, en s'accrochant à lui, par la foi, par une confiance exprimée. Nous disons à Jésus, tu es mon espérance. L'application de ce texte, c'est qu'il faut persévérer, il faut continuer à s'accrocher à Christ et il faut veiller. On va voir ces deux verbes, persévérer et veiller, les uns sur les autres. C'est collectivement que nous devons chercher à agir. La vie chrétienne, c'est une vie de famille, c'est une vie de communauté, c'est une vie collective pour notre bien, pour le bien des autres. Mais on va commencer avec les fondements de la valeur humaine qu'on trouve en Christ. Premièrement, un prêtre éternel. Chapitre 7, verset 23. J'espère que vous avez pu voir une Bible. Chapitre 7, verset 23. De plus, il y eut des prêtres lévitiques en assez grand nombre, parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous faut, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Jésus a toutes les qualités qui nous font défaut. Il est éternel, il est parfait, il est toujours vivant, il est toujours intercédent, il répond à nos besoins, notamment notre besoin devant Dieu de pardon et de réconciliation. On ne pourra jamais dire le péché que je commettrai la semaine prochaine, ou ce soir, ou dans 10 ans, sera le péché de trop, sera la goutte d'eau qui fera déborder la vase et Jésus ne pourra plus gérer. Il est toujours vivant, il est éternel, il correspond à nos besoins à merveille. Il continue à intercéder. Parce que nos péchés continuent, nos fautes, nos compromissions, nos petits renoncements, nos grands renoncements parfois aussi, nous avons besoin d'un prêtre éternel, d'un médiateur qui ne meurt pas, qui ne
tombe pas, qui n'arrête pas d'intercéder. Il n'a pas à transmettre cette autorité, ce sacerdoce, ce rôle de prêtre à un autre. Il n'a pas à être aidé, il est toujours là. Hier, aujourd'hui et à jamais le même. Ce grand prêtre éternel, il est pour toujours, il est permanent. Le psaume 110 en a parlé. Hein. L'Éternel l'a juré, il ne se rétractera pas, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchizedek. Alors, l'Éternel parle à son roi, et il parle au Seigneur de David. Donc, dans le psaume 110, je ne sais pas si vous avez pu regarder ça l'autre jour, mais... en fait, l'Éternel jure d'établir un prêtre éternel. Donc Dieu, l'Éternel, s'engage à établir un prêtre éternel. Et il semble qu'au verset 28, l'auteur aux Hébreux est en train de faire référence à cet engagement de Dieu, ce serment, cette promesse de Dieu qui est dans le psaume 110. Le serment prononcé, c'est l'engagement de Dieu qui établit un prêtre parfait pour l'éternité. C'est longtemps après la loi, c'est longtemps après l'établissement des prêtres lévitiques et autres. Dieu a exprimé un désir, un projet d'établir un intercesseur, un médiateur qui pourra durer, qui sera debout, en tout cas qui pourra intercéder toujours. Petit, on peut avoir l'idée que nos parents seront ces soutiens sans fin. Même si je commets un meurtre, maman viendra me visiter en prison. Je l'espère. Même si tous les autres ils refusent de venir, maman, elle viendra. Mes parents, ils seront toujours là. C'est sécurisant. Malheureusement, ce n'est pas toujours vrai. Les parents peuvent décéder. Ils peuvent d'ailleurs aussi décider que vous êtes allé trop loin et qu'ils ne vont pas vous visiter en prison parce qu'ils ne peuvent pas le supporter. Ils peuvent couper les ponts. Un intercesseur, un ami qui, lui, ne cessera jamais d'agir en ma faveur. Ça, c'est pas mal. Ça fonde une vie, ça m'assure fondamentalement. Lorsque cette vérité du verset 25, hein, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Si ça s'enracine dans mon cœur, alors je serai un homme libre. Je sais qu'il y a toujours quelqu'un qui pourra intercéder en ma faveur. Rien ne peut l'arrêter. Si cela est profondément ancré dans mon cœur, alors il me semble que ce sera relativement facile de rayonner, car j'ai une sécurité fondamentale en Christ. Être un homme libre et solaire, comme dirait Michel Onfray. Alors, quelque chose qui assure, qui nous sécurise, qui pourvoit. C'est ce que proposent les assureurs, n'est-ce pas? Quel que soit le désastre qui s'abattra sur vous, telle entreprise, nous serons là pour vous dépanner et pour vous rembourser vos frais. Votre maison est détruite par un incendie? Pas de souci. Il y a une tempête qui arrive, on prend soin de vous. Sauf que, vous avez déjà vu un contrat d'assurance? Ça, c'est long et détaillé. Il y a des choses écrites tout petit. Et il y a des limites, hein, parce que oui, on est toujours là, hein, vous pouvez compter sur nous. Du moment que telle ou telle condition sont remplies, etc., etc. Toujours des limites dans les contrats d'assurance. Ils ne peuvent pas faire autrement. Si je m'accroche au prêtre éternel, il n'y a dans un sens pas de limite à sa garantie. Plus besoin d'avoir peur. Vous avez peur que le ciel vous tombe sur la tête, Astérix? Pas besoin en Jésus. Vous avez peur de rater vos examens? C'est pas grave. Vous avez peur de ne jamais trouver l'âme sœur? Il y a un intercesseur éternel, un ami qui est si fort qu'il a tué la mort. Un prêtre éternel, le Fils qui est parfait pour l'éternité. Je vous invite à avancer vers le chapitre 10. va parler deuxièmement du sacrifice unique.
Un sacrifice unique.
Les prêtres temporels offraient des sacrifices et encore des sacrifices et encore des sacrifices, ça arrivait tout le temps. Le prêtre éternel, lui, a offert un seul sacrifice pour tous les temps. Il n'y a donc plus besoin de présenter d'offrande pour le péché. C'est pas si vous avez déjà croisé cette idée que peut-être que venir à l'église, ce serait présenter une offrande à Dieu ou d'ailleurs donner de l'argent. Une offrande, alors, une offrande, oui, dans le sens de reconnaissance, mais pas une offrande pour le péché. Plus besoin de présenter des offrandes pour le péché, plus besoin de faire des sacrifices pour le péché. Le sacrifice unique a eu lieu. Son intercession est éternelle et son sacrifice est unique. Une fois de plus, on voit la supériorité de Jésus par rapport au prêtre humain, au système du temple qui existait encore à l'époque. Tout comme Jésus est éternel, son sacrifice est éternellement valable, une fois pour toutes. Et donc, par ce sacrifice, il y a cette sécurité parfaite. Plus besoin de nouveaux sacrifices, son offrande est unique et dure pour toujours. D'ailleurs, le signe de cette efficacité de l'unique offrande, c'est que le prêtre s'est assis, on l'a vu hier matin. Il est assis à la droite de son Père. Il n'y a plus besoin de faire des offrandes. Il attend simplement la soumission de tous ses ennemis. Le Christ, verset 12, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient réduits à lui servir de marchepied. Allusion au psaume 110 encore. Et maintenant, j'aimerais vous inviter à relire avec moi, lentement, le verset 14. Il me semble qu'on est au cœur du message. En effet, par une seule offrande, il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Il a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. L'offrande est unique, la conséquence est éternelle. C'est pour toujours. La conséquence est entière, totale, conduit à la perfection. Et pourtant, avec cela, il y a ceux qu'il a conduit à la perfection, passé, pour ceux qu'il rend saint, présent. Donc, il y a une réalité présente de mise en œuvre de cette sainteté. Il y a une réalité éternelle d'existence de cette sainteté. Être chrétien, c'est avoir le statut de saint. C'est ça. Je peux dire Saint Salomon, Saint Andréa, Saint Joseph, etc. Enfin, pourquoi, pourquoi ils ont ri, Joseph? Saint Joseph, je pense que c'est pas toi, c'est plutôt le père de le mari de Marie. Le Nouveau Testament nous dit ceux qui appartiennent à Jésus, qui sont confiés à Christ, se sont remis à Jésus, ils sont parfaits, ils sont conduits à la perfection. Et ils sont donc, dans un sens, avec lui au ciel, purifiés, pardonnés, réconciliés, justifiés par ce sacrifice unique, une fois pour toutes. Et donc, ceux qui sont parfaits, qui sont habillés par la justice du Christ, ils sont en train d'être rendus saints, transformés à l'image de Jésus. Il y a la réalité spirituelle et éternelle, théologique, être parfait, il y a une réalité terrestre, être en chemin vers la sainteté. Alors, il peut nous sembler, parfois dans un sens avec une certaine justification, que ce chemin est long, voire trop long. On est loin du but, peut-être. Peut-être très loin. En Jésus, nous y sommes déjà, au but. Et dans le Nouveau Testament, il y a régulièrement cet appel de vivre ce que nous sommes. Vous êtes déjà ça, vivez-le. Nous sommes appelés à concrétiser dans nos vies ce que nous avons déjà dans le monde céleste par Christ. Alors, il cite Jérémie 31, hein, le projet de Dieu depuis très longtemps, mais le projet d'engager sa parole, de s'engager lui-même, une alliance, c'est un engagement que je ferai, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs péchés.
et de leur faute.
Jérémie l'a annoncé, Jésus l'a accompli à la croix. Mettre fin une fois pour tout, mettre fin au péché. L'être humain véritable, celui qui est en Christ et qui vit grâce à la croix, il est parfait et en même temps il est appelé à avancer vers la perfection. Simul justus et peccator, comme disait Luther, je pense qu'il disait peut-être en allemand, je sais pas. En même temps, juste et pécheur, en même temps. Juste aux yeux de Dieu, rendu parfait par la seule offrande de Jésus, et pourtant pécheur, ayant besoin de vivre une transformation, ayant besoin d'avancer dans la transformation. C'est un des privilèges d'un pasteur que d'avoir en fait la meilleure place dans l'église lors des mariages. Quand je suis je célèbre et que je ne suis pas simplement invité. Mais vous savez, il y a toujours ce moment magnifique où tout le monde est prêt et la porte s'ouvre et la mariée entre. Cette belle robe blanche. Et je n'ai jamais vu, je pense dans un sens, presque comme si ça n'existe pas, une mariée qui à ce moment-là n'était pas magnifique en fait. À ce moment-là, alors. C'est la robe et les cheveux, et le sourire aussi, et la joie qui rayonne. Elles sont toujours rayonnantes à ce moment-là. Quelle que soit, disons, la matière brute, dans le. elles sont toujours magnifiques à ce moment-là. Il y en a qui sont mariés que j'ai. Non, c'est bon. Personne ici. C'est un régal d'être devant et d'avoir ce privilège-là, de voir la mariée s'avancer. En quelque sorte, mes amis, c'est ça que chacun a en Jésus. Être rayonnant malgré notre réalité. Être magnifique, resplendissant. Être habillé d'une justice étincelante, éblouissante. Quelle que soit la réalité de notre quotidien. Et cela grâce à un sacrifice une fois pour toutes. Sacrifice unique. C'est comme le mariage. Hein. La mort de Jésus, c'est un moment précis qui est unique et que tu n'as pas besoin de répéter. Le mariage, tu n'es pas marié, tu entres dans la mairie. Une demi-heure plus tard, tu sors de la mairie, t'es marié. Ça prend pas très longtemps, mais il y a avant et après. Voilà. Il y a la croix qui est dans un sens au milieu de l'histoire, qui rayonne dans les deux sens, mais qui donne une perfection à tous ceux qui s'approchent de Jésus par la foi. Si on fait confiance aux promesses de Dieu en Christ, alors son sacrifice est valable. Et c'est la même chose d'ailleurs pour ceux qui venaient avant, qui devaient faire confiance en la parole de Dieu telle qu'elle avait été révélée, et regarder à des sacrifices d'animaux, voilà, ce bouc, il va mourir et ça va compter pour mon pardon. Il fallait faire confiance à Dieu. La mort de Jésus, il y a 2000 ans, ça compte pour mon pardon. Il faut faire confiance à ce que Dieu dit. La croix tient jusqu'à la fin du monde, quels que soient les péchés de celui qui est attaché à Christ. Uni à lui, je suis parfait. Uni à lui, vous êtes parfait. Et vous le demeurez tout simplement pour toujours. Chers amis, si la perfection que Jésus-Christ a accomplie pour nous entre dans nos cœurs, nous ne pourrons pas vivre de la même manière qu'avant. Il nous faut donc parler de vie et de mise en pratique. Je vous invite à trouver les versets 18 à 25. Tout le monde est encore réveillé? Si votre voisin dort, hein, une petite gifle, je trouve ça marche très bien. Il y a des gens qui font exprès là. Mise en pratique, premièrement, persévérer. Verset 19. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante Il l'a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous, donc, avec un cœur sincère, une foi inébranlable. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il nous donne un verbe, persévérer, pour approchons-nous et retenons fermement. Il me semble que nous devons continuer avec Jésus en continuant dans l'approche, c'est-à-dire s'approcher de lui régulièrement. On a parlé hier, c'est la prière, c'est venir à Christ quotidiennement pour lui dire ce qu'on a sur le cœur, pour lui demander l'aide qu'il nous faut, pour le remercier pour les bonnes choses qu'il nous donne, pour l'adorer pour qui il est. S'approcher de lui avec un cœur sincère et puis retenir fermement l'espérance, c'est persévérer. Mais justement, persévérer, c'est pas facile parce qu'il y a plein de choses qui vont nous proposer quelque part la joie, la force, la satisfaction, la sécurité, l'argent, le travail, la famille, mais tellement de choses qui vont nous proposer une alternative. Les destinataires de la lettre aux Hébreux étaient sous pression. Revenez à la religion de la famille, revenez au temple, revenez, nous avons des vrais sacrifices. Vous avez quoi là-bas? Vous avez rien. Vous dites, ouais, on fait confiance à un sacrifice, mais c'était il y a quelques années déjà, c'est il y a longtemps. Nous avons des vrais sacrifices, des éléments visibles et tangibles. Vous voyez ça? Ça, vous pouvez mettre votre sécurité là-dedans. Persévérez, nous dit l'auteur. Continuez. Approchons-nous et n'arrêtons pas de nous approcher de Jésus-Christ. Profitez de cette assurance parfaite, de cette liberté qu'il nous donne. Il a ouvert la voie, il a frayé le chemin par son corps. Et donc, on a besoin de s'approcher, de continuer à s'approcher de lui. Ces verbes sont dans un impératif présent, ça veut dire qu'il faut continuer à le faire. Ce n'est pas juste une fois, ce n'est pas une fois pour toutes, c'est bon, je me suis approché de Jésus. Non, je continue. Et je continue à retenir l'espérance. C'est une action continue. Il y a l'événement unique du sacrifice, de l'offrande de Jésus-Christ, une fois dans l'histoire. Cela doit susciter une action continue de notre part. Ne pas se relâcher, s'approcher, tenir fermement. Persévérer, persévérer et persévérer encore. Nous avons besoin de persévérer car il me semble derrière le verset 22, il y a l'implication qu'une mauvaise conscience pourrait nous empêcher justement. Approchons-nous avec un cœur sincère, une foi inébranlable. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. N'oubliez pas que vous êtes purifié et donc vous pouvez continuer à vous approcher du Christ. Jour après jour. Les épreuves peuvent nous décourager. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. L'épreuve est là, mais lui, il est fidèle à ses promesses. Donc, il faut continuer avec lui. Tant de choses peuvent nous égarer, que ce soit le péché ou les souffrances, que ce soit des pressions, des mauvaises choses. Il y a des bonnes choses qui peuvent nous égarer. Le travail, l'argent et la famille sont des bonnes choses. Je pense à un ami quand j'étais à la fac, qui était très engagé et qui a dit, voilà, je vais peut-être travailler quelques années et puis je vais essayer de me former pour un service plus actif. Et après 2 ans, il a dit, ah, peut-être une troisième année. Après 3 ans, il a un peu oublié. Et, bon, il n'a pas abandonné la foi chrétienne, mais il y avait un engagement qui était plus important, me semble-t-il, et qu'il s'est laissé égarer, me semble-t-il, un peu, d'une voie qu'il avait vue tracer avant et qu'il a laissé de côté. Attention, gardez les choses à leur place. Le travail, par exemple, ne doit pas prendre tout votre temps et toute votre énergie de telle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps pour l'Église, ou la Bible, ou la prière. Sachons retenir fermement l'espérance. Persévérer en s'approchant du Christ jour après jour. Et n'oublions pas que c'est grâce à lui que c'est possible. J'ai une petite image là. Alors, vous avez déjà fait du ski de fond. Vous savez qu'il y a une grande différence entre frayer une trace soi-même ou suivre des traces existantes. Alors, ça se chiffre en calories, sans doute, d'effort et en gouttes de sueur, etc. Jésus, lui, il a déjà fait le chemin. Il est allé haut, il a traversé le ciel. Il a fait le nécessaire. Il y a une route nouvelle et vivante. Ce n'est pas juste une tracée dans la neige. C'est une route nouvelle et vivante, une route qui n'existait pas dans le sens avant lui et qui existe maintenant. Et donc pour rentrer à la maison, pour rejoindre notre Créateur, le chemin est là. Pas besoin d'en tracer une nouvelle, on peut suivre des traces déjà creusées. Jésus a creusé ce sillon à travers la selle. Il a fait ce qui nous était impossible. Nous sommes donc interpellés par cette action du Christ qui nous motive dans la persévérance. Retenir une espérance en lui seul, ne cherchez pas une sécurité qui serait plus tangible, mais en réalité illusoire. C'est le paradoxe de la foi, hein. Les choses invisibles sont les choses les plus sûres. Nous sommes assez tentés par les choses visibles qui paraissent plus sûres. C'est illusoire. Accrochons-nous à Jésus-Christ sans relâcher. On est faible. C'est pourquoi il nous faut non seulement persévérer, mais aussi veiller. Veiller. Prochain diapo. Voilà, veiller. Merci beaucoup. Veillez, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Veillons les uns sur les autres. N'abandonnons pas notre assemblée. On voit clairement ici que pour persévérer, on a besoin des autres et que les autres ont besoin de vous. C'est ça aussi dans ce texte. On a besoin des autres pour nous inciter à l'amour et à des belles œuvres. Ou l'ancienne traduction exciter. En fait, le mot, c'est parle de provoquer. Il est utilisé dans Acte 15 pour parler d'un conflit. C'est très fort, hein? Pousser les gens à l'amour et aux belles œuvres. On a besoin parfois d'être un peu poussé pour les belles œuvres, pour l'amour. On a besoin les uns des autres pour bien agir, bien vivre, continuer. Je ne sais pas si vous avez l'impression que l'Église, ça ne sert pas à grand-chose, que l'Église ne vous apporte pas grand-chose. Je ne sais pas si vous avez pensé à ce que vous pouvez apporter à ceux qui sont là. À celles et à ceux qui ont peut-être besoin de votre encouragement, de votre provocation et incitation à l'amour et aux belles œuvres. Pour s'aimer les uns les autres. L'Église, ce n'est pas juste l'occasion pour vous d'être encouragé. Hein. Donc, ah, moi, je ne vais pas être vraiment encouragé. Peut-être que je n'irai pas la semaine prochaine. C'est l'occasion aussi pour vous d'encourager les autres. J'ai lu l'autre semaine un super témoignage d'un gars, alors je crois qu'il est dans le ministère chrétien aujourd'hui, mais qui a dit que, dans ce témoignage, il expliquait que quand il était adolescent, qu'il avait 15 ans, il venait à l'Église, disait... J'étais habillé en adolescent un peu dégueulasse, j'avais les cheveux pas lavés, un peu n'importe comment. J'étais assez hostile, un peu, j'avais un visage fermé, je n'accueillais pas. Mais il y avait un gars dans l'église, alors il était âgé, il avait peut-être 50 ans. Et tous les dimanches, ça ne ratait pas, il venait me voir, il disait « Bonjour, comment vas-tu ?» avec un grand sourire. Quelle que soit la situation, je dirais, de mon visage, de mes cheveux, de mes habits, etc. Et ce gars-là, il est venu tous les dimanches me dire « Bonjour, comment vas-tu » avec le sourire. C'est tout ce qu'il a fait. Mais cet homme a témoigné pour dire « Ça a été décisif pour lui. » De voir quelqu'un, quand lui, il avait 15 ans et il ne se sentait pas forcément très bien dans sa peau, quelqu'un qui s'intéressait à lui, tout simplement, avec le sourire et « Comment vas-tu ?» dit avec sincérité. Nous avons besoin les uns des autres. Et nous ne savons pas l'impact de ce que nous pouvons faire. Qui sait cette personne à qui vous dites bonjour, comment vas-tu, dans 20 ans, va peut-être s'en souvenir. Il est obligatoire pour celui qui croit en Jésus, et je pèse mes mots, d'être sérieusement engagé dans une assemblée. Si vous êtes en Tunisie et vous ne pouvez pas trouver d'autres chrétiens, je vous invite à chercher ce que vous pouvez chercher comme communauté par les moyens possibles. Il se trouve que vous n'habitez pas la Tunisie, et donc vous avez des possibilités d'assemblées chrétiennes, pour la plupart assez proches de là où vous habitez. Vous avez besoin de servir et d'être servi. Et en servant, vous allez recevoir. Mais ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Vous avez besoin de connaître des gens de mieux en mieux et que les gens vous connaissent. Vous avez besoin de veiller sur les autres et d'être prêt à ce que les autres veillent sur vous. Ce matin, je prêchais à notre église sur Jean 13 où j'ai dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. » C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je ne sais pas comment vous comptez aimer les chrétiens sans les rencontrer. Ah non, mais moi, je suis allé sur Top Chrétien l'autre jour. Vous pensez que ça compte ? Jésus nous ordonne de faire partie réellement d'une assemblée où on peut le pratiquer. Moi, mon cauchemar, c'est les chrétiens qui papillonnent entre les églises. Vous en connaissez ? Ouais, je suis un peu ici, un peu là. Ah ouais ? Et les gens, ils arrivent à veiller sur vous et vous veillez sur les autres en venant un peu ici, un peu là. Alors je sais, vous avez parfois des situations un peu compliquées, où vous avez un stage ici, et puis des cours là, et puis des parents là, et les grands-parents là-bas, etc. Moi, je vous dis, vous devez essayer autant que possible d'avoir une assemblée où c'est votre assemblée, où vous êtes prioritaire. Et si vous êtes à cheval sur deux villes, alors vous en avez deux. Et quand vous êtes à Paris, vous êtes à cette église-là. Et quand vous êtes autre part, à perpète les deux églises, vous avez une des deux églises. Allez, allez. C'est perpète les deux églises, là, où vous allez avec... ouais, bon, c'est pas grave. Si vous n'avez pas d'église à Paris, vous pouvez venir à la nôtre, hein, elle est très bien. Mais je pense qu'il y a un problème ou une autre qui est plus proche de chez vous et qui est excellente aussi. Donc moi, je peux faire de la pub pour l'église des Ternes, hein, 10h45 ou 19h, voilà. La RDS à 18h30, pour ceux qui préfèrent se lever tard, moi ça ne me choque pas. Hein. Donc à la rue de Sèvres, 72 rue de Sèvres, ou 8 bis rue des Ternes, métro Porte-Maillot ou métro d'Europe. Voilà les églises que je connais bien. Mais il y en a plein d'autres. Et vous devez trouver celle où vous pouvez aller relativement facilement et où Jésus est proclamé. Bon. C'est pas... Il n'y a pas d'église parfaite. Hein. D'ailleurs, j'aime bien. Si un jour vous tombez sur l'église parfaite, il ne faut surtout pas y aller. Vous savez pourquoi ? Si vous y arrivez et elle est parfaite, vous, étant imparfait, vous allez ruiner la perfection de cette église. Ah, donc il faudra aller autre part. Il ne faut pas aller. Si vous trouvez l'église parfaite, hein, allez autre part. Ah, il est marrant, les blagues de pasteur. Voilà. Il y en a qui dorment encore, là ? Il faut que je sorte encore des blagues, ça va. L'église est une bénédiction de Dieu qui vous permet d'obéir à Jésus. C'est génial. Quelque chose, il y a des gens qui se donnent du mal pour organiser une réunion pour que vous puissiez obéir à Jésus. Merci, hein? Merci Seigneur. Pas mal ça. On vit dans un pays où, bon, il y a quelques endroits dans la Creuse, il faut peut-être faire 50 km, mais globalement, t'as pas besoin de faire plus de 50 km pour trouver une assemblée où Jésus est proclamé et où vous pouvez veiller les uns sur les autres, être incité et provoqué à l'amour et aux belles œuvres. Pas mal. Je connais une dame qui se dit chrétienne. Ça fait plus de 30 ans qu'elle n'a pas participé à la vie d'une église. Et elle m'a dit, hein, Jésus dit d'aller dans ta chambre, ferme la porte et prier. Donc moi, c'est ce que je fais. Alors, typiquement, c'est le truc classique où on prend un verset, on le tire de son contexte, on ignore le reste de la Bible. Bon, comme si Jésus va annuler un de ses commandements avec un autre de ses commandements. Il faut être prêt à gérer les imperfections de l'Église. Il faut être prêt à gérer ses propres imperfections par rapport à l'Église, par rapport aux autres qui sont là. Mais il faut y aller. ne serait-ce que pour les autres, si toi t'en tires rien. J'aimerais bien, si vous avez des questions à ce sujet, on pourra en parler après. Nous avons besoin de veiller, nous avons besoin de ne pas abandonner l'Assemblée, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Il parle probablement du jour de jugement, parce que il se disait, voilà, Dieu va juger le monde et cela vient chaque jour un peu plus proche. Il se peut que cette lettre étant écrite entre 66 et 70, il y avait les armées impériales romaines qui s'approchaient vers Jérusalem et c'était vu comme un jour de jugement. C'est peut-être ce jour-là qu'elle y fait allusion. Dans un sens, c'est pas grave aujourd'hui. L'essentiel, c'est de persévérer et veiller. Ne pas abandonner, mais s'engager pour le bien de mes frères et sœurs en Jésus. S'engager en s'engageant, je découvre qu'en faisant cela, je suis béni, que je reçois en donnant. En encourageant les autres, on est encouragé. En aidant d'autres à persévérer, on peut persévérer. Que Dieu nous donne de persévérer et de veiller, parce que le prêtre éternel a accompli un sacrifice unique. Je vais prier. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Père Céleste, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton concours. Nous avons besoin de ton esprit. Nous te prions, notre Dieu, que tu nous donnes de reconnaître la valeur de ce que nous avons reçu en Jésus, la valeur que tu nous donnes, ce prêtre éternel qui intercède sans cesse et qui, par son sacrifice unique, a fait tout le nécessaire pour notre pardon, notre restauration, notre transformation. Père Céleste, nous te prions qu'avec ces vérités ancrées dans nos cœurs, nous puissions persévérer avec Jésus-Christ, nous puissions veiller les uns sur les autres, et tout cela, nous puissions le faire pour la gloire de ton nom. Et nous te prions au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. On a du temps pour des questions. Comme d'habitude, vous savez, la première question, celle qui est la plus difficile. On a besoin de quelqu'un de courageux pour poser la première question.
Juste une petite, ouais, t'as pas une grosse?
Ça dépend de la réponse. À un moment, tu as dit que même si on retire rien d'une église, il faut y aller parce que nous, on peut apporter quelque chose à d'autres. Mais est-ce que c'est vraiment une attitude saine d'aller dans une église où on n'apprend rien, où on n'en retire rien
Alors, je dis ça par rapport à une église qui est fidèle à Dieu et qui, globalement, cherche à t'encourager, donc tu reçois des choses. Je pense que si tu es dans une église où tu n'es pas encouragé ou édifié, je dirais, sur la globalité de ce qui se fait, il faut réfléchir à est-ce que c'est un problème dans mon attitude ou est-ce que, en fait, il y a peu de choses là spirituellement et est-ce que je devrais aller autre part. Il se trouve que peut-être qu'il faut rester là. Peut-être pour aider l'Église à avancer, ça dépend de la situation dans laquelle tu es. Je dirais peut-être si tu es un étudiant et c'est peut-être pas le cas. Et peut-être qu'il faut réfléchir à dire peut-être que j'ai mal choisi l'Église et je devrais aller autre part où il y aura plus, où je pourrais recevoir, je dirais, régulièrement. Mais par cela, je voulais dire que moi, je pense même à, entre guillemets, la meilleure Église. Il y a peut-être des moments où on se dit,
ce dimanche-là ou ce moment-là, j'ai pas reçu, mais je sais que globalement, ça m'aide à avancer. Donc, je veux relativiser, je dirais peut-être le quotidien avec un point de vue plus large. Et en effet, dans la région parisienne, il y a bon nombre d'églises. Et je pense à par exemple des amis qui étaient dans une église où ils trouvaient qu'ils recevaient vraiment rien. Et je pense qu'ils ont eu raison. C'était pas une réflexion qui était sur un ou deux dimanches. C'était quand même, ils ont pu voir des choses. Il faut qu'on aille autre part parce que là, on n'avance pas spirituellement. Et donc, ils ont changé d'église. Mais je dirais de manière réfléchie et puis aussi de manière respectueuse, c'est-à-dire en discuter avec les responsables. Cela peut-être apporte un autre complément, qui est de dire chercher à bien choisir aussi. On a un privilège d'avoir quand même une multiplicité d'églises. Rechercher une église où il y a des encouragements et des édifications, notamment je dirais des contenus bibliques qui vous permettent d'avancer. Mais ne passez pas trop de temps à rechercher la parfaite église non plus. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'il y a des moments où en effet il faut tirer des conclusions et dire là je trouve qu'en fait dans cette église j'y arrive pas. Et il n'y a pas trop loin, ou un peu plus loin, mais bon, il n'y a pas trop loin une église où peut-être je pourrais recevoir et voilà. Mais une fois de plus, je veux insister globalement sur le danger de papillonner plutôt que, même s'il y a un danger d'être simplement dans une église où finalement c'est pas une bonne église pour toi et tu as besoin d'aller où. Pardon ?
C'est indépendant de l'arrivée d'être dans la question.
Je vais pas le dire, hein,
non.
Merci.
Mais la période de recherche,
elle peut
être un an.
Oula.
En fait, en ayant pour objectif de, en même temps, voir ce qui se passe ailleurs.
Ouais. Et tu vois, ça c'est plus problématique. Le but de rechercher une église, c'est pas de voir ce qui se passe, tu vois. Le but, c'est de trouver une bonne église et de s'y ancrer aussi rapidement que possible. Moi, je pense que si tu arrives dans une ville, tu devrais pouvoir trouver 3-4 mois, devrait suffire à mon avis. Même moins, tu devrais pouvoir poser des questions voilà, par le réseau GBU, demander à quelqu'un qui connaît voilà, les 6 églises qui sont pas mal dans le centre de Nancy ou je sais pas quoi. Tu visites ces églises, ça prend 6 semaines. Hein, donc ça ne devrait pas prendre... Voilà, c'est vrai, en Île-de-France, il y a 500 églises évangéliques pour les 11 millions de personnes. Donc, tu visites les 500 églises, ça te prend 10 ans. Hein, mais bon, il y en a pas mal qui sont ethniques, donc tu vas déjà éliminer tous ceux qui parlent le portugais et le coréen. Bon. Non, mais sérieusement, ouais, ce truc de « Ah, je suis en recherche d'église », je suis assez sceptique, en fait. Que oui, pendant quelques mois, peut-être, mais ça devrait pas durer, non, ça devrait pas durer un an. Je trouve que, normalement, 2-3 mois devrait suffire. En 3 mois, tu as 12 dimanches. Visiter 12 églises. Il y a 12 églises dont tu peux, en regardant le site web, voir qu'ils essaient d'être fidèles à Jésus et à la Bible et qui sont pas trop loin de chez toi. Et en prenant pas 12. Hein.
Est-ce que pour inciter quelqu'un à aller dans une église évangélique, après que la personne est un peu ouverte à la Bible, il faut avoir soi-même été dans cette église pour mieux pouvoir la posséder
Non, non, non. Non, je pense qu'il faut essayer. Alors. Demain, il faut s'aider les uns les autres. Hein. Moi, j'ai ma soeur qui vient de déménager sur Lille. J'ai demandé à un ami à Lille quels sont. Alors, bon, il n'y a pas forcément d'amis à Lille, mais bon, je dirais, on a besoin de parler les uns aux autres. Si tu as ce type de questions, tu peux m'envoyer un mail. Je dirais, tiens, je connais un tel à Lille, je te mets en contact avec Nicolas qui habite Lille et il pourra te parler des églises à Lille. Je pense qu'on a. Voilà, on peut s'informer. Plus on avance dans des connaissances théologiques, plus on peut lire avec un certain recul les sites web. Et souvent, très intéressant, tu peux découvrir pas mal. Là, je regardais justement sur des églises à Lille et je trouve que souvent les sites web révèlent plus peut-être que les gens ont l'intention de révéler par le site web. Donc voilà, aujourd'hui, il y a plein d'informations qui est à portée de main et il faut l'utiliser. En même temps, c'est vrai que recommander une église, là je recommande des églises à ma sœur à Lille, que j'ai jamais été, et je sais que Ils peuvent sans doute avoir des faiblesses que je ne perçois pas de diverses manières. Donc, mais je pense que tu peux recommander une église sans y avoir été. Et le mieux, c'est d'avoir un avis de quelqu'un que tu connais, à qui tu fais confiance, quoi. J'ai répondu à ta question. Mathieu.
Je veux savoir, est-ce que l'avoir d'une église est plus bon que d'autres?
Meilleur que d'autres. Ouais, moi j'ai, dans ma vie, donc j'ai grandi dans... j'étais petit, on allait en une église, puis la plupart de mon enfance, j'étais dans une autre église, à la fac, donc... À la fac aux États-Unis, dans une église. À la fac en Angleterre, j'étais en une église. À Londres, j'étais dans une église. À Paris, j'étais deux églises plus les églises. Donc, voilà, j'ai des expériences assez longues dans, disons, six églises. Pour moi, il y en a clairement qui étaient meilleures que d'autres. Bien sûr. Meilleures dans quel sens? Meilleures dans le sens où la Bible avait mieux sa place, où l'enseignement était plus pertinent et plus percutant, où la communion était plus... plus encourageante, voilà. J'ai pas peur de dire que je pense qu'il y a des églises qui sont meilleures que d'autres. En même temps, je veux relativiser entre. Je pense qu'il y a une ligne assez claire pour moi entre les églises qui sont fidèles à Jésus et à la Bible et les églises qui ne sont pas. Donc, mais au sein de ce groupe des églises qui sont fidèles à la Bible, oui, il y a une grande variété. Il y en a qui sont plus ou moins bonnes. Et puis plus ou moins bonne pour qui et pour quand aussi. Donc voilà, pour relativiser ça. Pardon, je ne connais pas ton prénom.
Gaël. Travailler le dimanche, c'est bien pour nous ou...
Ouais. Je crois que le jour du repos est un commandement de Dieu. Mais je ne vois pas dans le Nouveau Testament que ce jour est fixé. D'ailleurs, il a évolué. En fait, les chrétiens, au début, donc, prenaient le samedi, et puis ils ont pris le dimanche parce que c'est le jour de la résurrection. Dans le temps, ça a évolué. Moi, je pense que les chrétiens devraient chercher à éviter un travail qui va les empêcher d'aller à l'église autant que possible. Si je n'ai pas le choix, voilà, on a une fille dans l'église qui est infirmière. Une fois par mois, elle ne peut pas venir le matin. Alors, maintenant, elle peut parfois venir le dimanche soir. Je pense que les églises aussi ont la responsabilité de chercher à multiplier les occasions. Je connais dans un... je ne sais pas si ça a marché, je ne sais pas si vous savez si ça a marché. Mais en Australie, à Sydney, il y avait un pasteur qui a pris ce problème à Brancaor, c'est dur, et qui a dit, mais il y a plein de gens, infirmières ou boulangers, des gens qui sont obligés de travailler le dimanche. Et donc, ils ont fait une église pour des personnes qui ont ce défi-là, où chaque semaine, le culte, c'est mardi soir ou jeudi soir à 20h, je ne sais pas quoi. Et l'idée, c'est que c'était identique, mardi soir et jeudi soir. Et donc, l'idée, c'est que tous pouvaient se libérer, soit l'un ou soit l'autre. Et donc, voilà, c'était... T'es médecin et tu dois bosser les dimanches, et ben ton culte principal c'était le mardi soir, et si tu pouvais pas cette semaine-là, tu pouvais faire le jeudi soir. Je pense qu'on peut, on doit avoir une certaine souplesse. Cela dit, moi je crois qu'un chrétien devrait, s'il peut, se lever quand on lui dit est-ce que vous pouvez travailler le dimanche, dire non, si possible, mais c'est pas toujours possible. Et si c'est pas possible, à ce moment-là, faut essayer de trouver d'autres arrangements. Ouais. Je pense qu'il y a des principes aussi un peu plus larges. Pour la société, c'est sain, c'est S-I-N, c'est bienfaisant d'avoir un jour où les gens peuvent se retrouver en famille, où les gens... il y a des... Ouais, je pense que les chrétiens devraient être globalement contre le travail dominical, comme on dit. Pas, je dirais, de manière peut-être super spirituelle, mais de manière assez concrète, que c'est bienfaisant pour les gens d'avoir un jour de repos. Et donc, on devrait aussi faire attention à chercher à ne pas faire travailler les gens le dimanche. Alors, je ne veux pas être légaliste là-dessus, et je suis moi-même pas toujours au taquet par rapport à ça, mais je trouve que globalement, c'est bien de se dire, ouais, si j'ai besoin d'acheter quelque chose, je fais le samedi pour que les gens, entre guillemets, n'ont pas à bosser les gens à qui on oblige, en fait, de travailler. c'est bienfaisant pour la société d'avoir un jour de repos collectif. En même temps, le commandement des jours de repos, me semble-t-il, individuellement, il est une place. Quoi. Moi, je bosse le samedi dimanche, hein, je me repose le samedi.
Dans une église où on voit des choses qui nous dérangent, où on a du mal, où il y a des choses avec lesquelles on n'est pas édifié, où on n'est pas encouragé, à partir de quel moment on doit se dire que c'est à nous de faire des choses pour arranger? Ou alors, à partir de quel moment on doit se dire qu'on doit changer d'église en fait?
Est-ce que tu peux me donner un exemple un peu plus concret, je veux dire, sans tout révéler, entre guillemets?
En fait, ouais, non, enfin, je n'ai pas d'exemple particulier dans la tête, mais... ouais, enfin, dans une église où on n'a pas toujours l'impression d'être... En fait, bon, c'est ma vie. Mais dans une église où je ne me sens pas spécialement édifiée, mais c'est quand même mon église depuis très longtemps, et je connais beaucoup de gens, et je pense que, enfin, voilà, j'ai... certaines communions fraternelles avec les gens, mais pour autant, bah, les messages ne m'édifient pas spécialement. Et je... Ou alors, des fois c'est les messages, ou alors des fois c'est le groupe de jeunes, ou des choses comme ça. Est-ce que je dois faire un effort, accepter, ou voilà. Est-ce que je dois changer d'église, voilà. Alors que je ne connais pas ce que ça.
Je dirais qu'il faut que tu demandes à Dieu de la sagesse. Je voudrais pas... Il me semble qu'il y a des trucs un peu diffus, un peu vagues, tu vois, je trouve que c'est pas forcément très édifiant, c'est difficile. Tu vois. Si quelqu'un dit quelque chose... J'ai une amie qui était dans une église où il y a eu un changement de responsable, et elle a écouté soigneusement ce que disait le nouveau, et après quelques mois, elle s'est dit, mais en fait, je pense qu'il y a des choses qui sont pas en ligne avec la Bible. Et donc là, elle est allée le voir, ils ont discuté, elle avait bien compris ce qu'il disait, et donc elle a quitté l'église. Donc il y a des situations... s'approche un peu des doctrines ou des idées importantes. Donc, je pense qu'il y a des situations où c'est clair, où ça faisait, on peut être là depuis toujours, mais il y a des moments où il faut savoir partir. Si c'est simplement que, par rapport à ce que j'entends autre part, etc., je trouve que ça ne m'encourage pas, je pense qu'il y a la première responsabilité, c'est d'en parler avec les responsables, de peut-être essayer d'expliquer ton point de vue et voir s'ils ont des idées pour que les choses s'améliorent. Mais bon, c'est difficile dans le sens où c'est une église établie, ils ont leur façon de faire, et etc. Donc, moi, je dirais qu'il y a un moment où peut-être, voilà, avec un peu de perspective, un peu de recul, je me suis dit, ouais, c'est vrai que je n'ai pas l'impression de recevoir ou d'avancer. Et je crois que l'Église devrait m'aider à avancer, donc je vais peut-être voir autre part. Mais je pense qu'il faut le faire vraiment avec beaucoup de retenue, quoi. Je suis un peu mal à l'aise, tu vois, à le dire, parce que je pense que si l'Église est fidèle à la Bible, il y aura presque toujours des choses pour moi, quoi. Je devrais aussi chercher à avoir une attitude où je cherche à tirer des bonnes choses de ce qui est là. Je pense qu'aussi, à un moment où c'est sage de dire j'avance vraiment pas là, et même s'il y a plein de belles choses, je pense que j'aurais avantage à aller autre part. Il faut vraiment demander à Dieu de guider, de donner sagesse. Ouais. Et aussi de le faire de manière respectueuse, c'est-à-dire de pas simplement disparaître, mais d'en parler, et notamment avec les responsables.
Du temps pour une dernière question, s'il y en a.
On en a fait.
Tout à l'heure, avec Rocky, on a vu une histoire du sens de la vie. À mon avis, la Bible suggère qu'il ne suffit pas de trouver un sens, de trouver une passion pour sa vie, et que la Bible dit qu'il y a peut-être des bons sens et des mauvais sens dans l'absolu. Qu'est-ce que, par exemple, tu dirais à une personne qui vient de passer... 5 ans de sa vie à investir du temps et de l'argent pour faire de l'humanitaire? Et hier, on a vu une vidéo, il y avait une personne qui disait qu'elle préfère creuser des puits en Afrique ou des choses comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire qui expliquerait que c'est peut-être pas le premier sens, une personne plutôt non chrétienne, sinon la question.
Ouais. je voudrais distinguer entre une expérience de trouver du sens et des réalités objectives. Donc, il y a, je peux avoir une expérience d'une vie où je ne trouve pas de sens, ou une expérience de vie où je trouve que j'ai plein de sens. J'ai pas de, et dans les deux cas, je peux être en fait éloigné de mon créateur. Donc il y a un côté objectif à ce que qui Dieu est, ce qu'il a fait en Jésus, historiquement, qui est important parce que j'ai besoin d'être en amitié avec lui. Et il y a une réalité d'être redevable devant le Créateur. Donc, je dirais que ces choses objectives-là peuvent, par la grâce de Dieu, donner un sens dans le subjectif parce que j'ai saisi quelque chose de vrai là-dedans. En même temps, je peux aussi concrètement trouver, mais attends, aller creuser des puits en Afrique, c'est génial, ça me donne un sens, et j'ai pas besoin de Dieu, tu vois, ou pas besoin d'autre chose. Et ça, c'est ne pas percevoir, je dirais, le côté objectif de qui Jésus est, le roi de l'univers, et de ce qu'il a fait, et de ce qui vient un jour où il faudra être devant lui, en quelque sorte. Donc, je pense que je voudrais contraster l'objectif et le subjectif, et dire que dans la foi chrétienne, on trouve du subjectif parce que cette réalité de Jésus a un impact sur qui je suis, ce que je fais, mais on trouve aussi de l'objectif, et on ne peut pas juste réduire Dieu à du subjectif, tu vois, et dire c'est très bien ton subjectif. Et je pense que ce mouvement-là, il est très très répandu dans notre pensée, c'est ta vérité, ma vérité. Et donc il y a rien au-dessus, si tu veux, ou à l'extérieur. Et selon la Bible, non, Dieu est à l'extérieur, il est transcendant, il est au-dessus. Et donc, quelque part, mon expérience peut tenir avec ça ou pas. Mais quel que soit le ressenti que j'ai, Dieu, lui, est vraiment là. Et quelque part, j'ai à faire avec lui, que je le veuille ou non. Pour en dire plus.
Merci, voilà. Alors, votre corps est actuellement, naturellement, en train de